Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Je sens que ce sujet va vous libérer quelque part parce qu'il s'intitule « Ne cherchez plus à plaire à votre conjoint ». Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette émission dans laquelle je ne veux pas non plus donner un coup de pied dans la fourmilière, mais je voudrais vraiment que vous puissiez baisser la pression, cesser de vouloir exiger des choses de vous-même qui sont lourdes à porter. Et si je vais dans cette direction, c'est parce que je sais que bien des conjoints sont fatigués dans leur propre couple, et je peux en parler en connaissance de cause, puisque mon premier couple a été un des couples dans lesquels j'ai mis une telle pression, bien entendu involontaire, mais sur mon conjoint, que finalement, en demandant le divorce, j'ai pris conscience que j'allais la libérer de quelque chose qui était difficile à porter, dans laquelle je lui demandais d'essayer de correspondre à mes attentes, et ça peut expliquer la raison pour laquelle j'ai aussi beaucoup travaillé sur le couple depuis. Et j'ai noté quatre choses pour vous inciter à chercher à quitter cette volonté de plaire à votre conjoint, parce que je pense que c'est véritablement un cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même et aussi à votre conjugalité. Je sais que vous prenez un risque si vous cessez de plaire à votre conjoint, si vous cessez de chercher à plaire à votre conjoint, pour être plus exact. Seulement, je pense que c'est vraiment important, et je l'aborderai dans une émission prochaine, de verbaliser quand vous avez envisagé de travailler dans une direction d'un changement. Alors faites-le, et vous écouterez l'émission et vous comprendrez un peu plus ma position. Mais pour l'instant, je voudrais, dans ce premier point, vous présenter l'importance de penser que vous n'êtes pas si mal que ça. Parce que quand on cherche à plaire à son conjoint, c'est qu'on est convaincu qu'on n'est pas au niveau, que on n'est pas assez bien pour lui, qu'on n'est pas à la hauteur pour elle et que l'on ne correspond pas aux attentes. Donc on fait un effort de consommation et généralement on rentre dans un stress chronique dans lequel on va dépenser beaucoup d'énergie pour chercher à plaire à son conjoint. Au lieu de chercher à plaire à votre conjoint en essayant de changer vos petites actions, etc., je vous encourage à chercher à montrer de l'amour à votre conjoint. Vous allez voir que c'est que ça n'a plus rien à voir. On n'est pas en train de chercher à plaire en termes de surface, mais en train de travailler sur de la profondeur. Et je vous renvoie au livre « Les langages de l'amour » de Carrie Chapman, dans lequel on va travailler vraiment sur la réalité de ce qui est notre conjoint en parlant sa langue. Quand on fait l'effort de parler la langue de quelqu'un d'autre, l'intention n'est pas de lui plaire, c'est de faire en sorte que ce qu'on veut lui dire et ce qu'on veut qu'il entende correspondent à ce qu'on veut dire. Donc, l'intérêt d'apprendre une langue n'est pas de chercher à plaire, de satisfaire, de séduire, etc. C'est vraiment de s'adapter à l'autre pour qu'il reçoive. Et à partir de ce moment-là, on optimise la communication. Donc, quand on est dans une disposition qui consiste à chercher à plaire à son conjoint parce qu'on estime ne pas être à la hauteur, on n'est pas dans une approche communicationnelle dans laquelle on va fluidifier la relation. Quand on cherche à montrer l'amour à son conjoint comme il le comprend, on est dans une recherche relationnelle, on fluidifie la relation, on donne du sens à notre manière d'être. C'est important de comprendre aussi qu'il est pertinent de ne plus chercher à plaire à son conjoint parce qu'on ne peut pas plaire en permanence à quelqu'un. Intégrer l'idée que ce n'est pas parce que vous ne plaisez pas à votre conjoint ou parce que vous avez fait une chose qui ne lui plaît pas que ce que vous avez fait n'est pas bien. Est mal, a été déplacé, etc. D'accord, vous êtes émetteur ou émettrice de ce que vous avez fait, mais vous avez, dans une relation, un récepteur. Ce qui signifie que vous avez pu faire un choix dans le cadre des langages de l'amour dont parle Gary Chapman, qui correspond à ce que vous avez compris de ce dont votre conjoint a besoin pour se sentir aimé, et qu'en face, ça ne colle pas. Si je prends le langage de l'amour cadeau, je dis bien souvent aux couples que j'accompagne que s'il est un domaine dans lequel on prend un risque quasiment permanent, c'est bien celui des cadeaux. Mais c'est valable à partir du moment où on prend une initiative, parce que même en service rendu, se planter parce qu'en moment de qualité, on peut se planter. En toucher physique, on peut se planter parce qu'on n'a pas touché au moment où la personne était en mesure de le recevoir et à l'endroit où elle s'est dit que, compte tenu de la présence de ses amis, elle trouvait acceptable d'être touchée à cet endroit-là. On peut avoir offert un cadeau qui ne correspond pas du tout aux attentes de l'autre alors qu'on était convaincu, compte tenu de ce qu'on a entendu, ce qui nous a dit que c'était une manière pour lui d'être aimé avec ce cadeau-là. Mais en fait, on a compris une approche de surface ou une approche partielle, ou peut-être lui s'est-il mal exprimé dans sa manière de dire ce qu'il attendait. Vous comprenez que on ne peut pas plaire en permanence. Même quand on travaille sur la base des langages de l'amour, je vous encourage à le faire, on ne peut pas plaire en permanence. Et à partir du moment où on accepte cette réalité, eh bien on peut baisser la pression. Et si je reprends les exemples que j'ai évoqués à l'instant, vous offrez un cadeau à votre conjoint, quand vous achetez le cadeau, quand vous le fabriquez, que vous le lui offrez, vous savez qu'il est possible que ça ne lui plaise pas. Ce qui signifie que si elle vous dit bah, « écoute, ça ne me plaît pas », vous êtes prêt à l'accueillir. Vous trouverez normal de ne pas être en mesure de vous connecter de manière optimale, permanente, aux besoins de formulation d'amour de votre conjoint. C'est normal que vous ne compreniez pas parce que votre conjoint est vivant. D'autant plus que, en plus d'être vivant, il est mouvant. Ce qui signifie que ce qui lui plaisait au mois de janvier peut ne pas correspondre à une satisfaction manifeste au mois de mars. Donc, restez vivant, restez ouvert, restez à l'écoute de votre conjoint, quel qu'il soit, pour faire en sorte que vous puissiez non seulement focaliser votre attention sur la manière de l'aimer, ce qui fait qu'il se sent aimé et non pas ce qui lui plaît, et d'accepter que vous aurez des ratés. J'ai pas envie d'en parler en termes d'échecs ou d'erreurs, parce qu'on a l'impression qu'on devrait savoir. Non, c'est des ratés. On ne s'est pas compris. Et c'est normal qu'on ne se comprenne pas. Quel que soit le groupe humain, même si vous êtes avec votre frère, ça fait 15 ans, 30 ans, 40 ans que vous êtes frère et sœur. Il y a des moments où vous ne vous comprenez pas. Vous n'êtes pas en accord, malgré la tentative d'harmonie. C'est pareil avec un conjoint. La troisième chose que je voudrais évoquer, c'est que il est important que vous arriviez à, je vais le formuler comme ça, à vous plaire avant d'envisager de plaire à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que même dans un couple, quand vous faites un choix, faites-le pour vous. Faites un choix dans lequel vous êtes tellement à l'aise que vous sentez que vous vous êtes donné du bonheur, vous êtes procuré de l'amour, vous avez apporté de la jouissance, vous êtes fait du bien. Parce que si vous augmentez votre bonheur personnel, que vous faites du bien, que vous augmentez votre jouissance, vos satisfactions, vous augmentez de fait le bonheur, la jouissance, la satisfaction conjugale. Sauf si, et je vous vois venir, sauf si vous avez un conjoint exigeant, égocentrique et même plus égoïste. Je rappelle, enfin, je ne la rappelle pas parce que c'est sur un autre blog Heureux au présent dont je parle, j'évoque ce sujet. L'égocentrisme est, pour ma part, une réalité saine. C'est un sain équilibre d'être égocentrique. On ne peut pas être altruiste si on n'est pas d'abord égocentrique. On a besoin de savoir qui on est, où on est, pourquoi on est ce qu'on est, pour pouvoir donner avec sens et équilibre ce qu'on va donner à l'autre, ce qu'on va vivre avec l'autre, et là où on va aller avec l'autre, passer du temps, etc. Dans la conjugalité, c'est pareil. Et il est possible que votre conjoint ait des phases d'égoïsme, parce qu'il est peut-être en recherche d'égocentrisme, parce qu'il se sent tellement mal dans sa peau qu'il vit l'égoïsme. Il est aussi possible qu'il ait pris l'habitude de négliger les besoins des autres, la satisfaction des autres, qui fait qu'il est égoïste. Quelle que soit la raison, vous avez pour vous-même besoin d'apprendre à vous plaire d'abord avant d'envisager de plaire à votre conjoint. Si ça ne plaît pas à votre conjoint, écoutez votre conjoint. Soyez sensible. Cherchez à comprendre sa position. Cherchez à voir comment vous pouvez envisager certains choix autrement, peut-être en dehors de sa présence, peut-être à un moment où ça le dérange moins, et dans une écoute. Voilà, j'entends que tu es dérangé par mon choix. Qu'est-ce qui te dérange dans cela? Qu'est-ce qui pourrait me permettre de vivre ce que je veux vivre et que toi, tu ne le vives pas comme quelque chose de gênant, de dérangeant? Soyez à l'écoute. L'idée n'est pas de chercher à avoir l'autorisation de votre conjoint pour chercher à lui plaire. L'idée est de chercher à comprendre ce que vit votre conjoint dans son inconfort, dans le but de vous adapter pour vivre votre satisfaction personnelle, sans le gêner. C'est tout. Parce qu'on aime son conjoint. Génial, formidable. Seulement, on aimera mieux son conjoint quand on sera en mesure de s'aimer vraiment soi. Donc, aimez-vous. Et aimer votre conjoint est une voie de conséquence de « je m'aime ». Quatrième chose, c'est très, très, très désagréable, très inconfortable et déstabilisant que d'avoir le sentiment que son conjoint nous aime pour la surface de nous-mêmes. Parce qu'on est beau, parce qu'on est talentueuse, parce qu'on est, on a la classe, parce qu'on est un bon orateur, parce qu'on est admiré par certaines personnes ou adulé, etc. Ça va un moment. On est prêt à signer des autographes à son conjoint. Seulement, dans le temps, ça ne tient pas beaucoup. On a besoin du moment où l'autre va nous aimer, non plus pour ce qu'on est capable de faire, mais parce que l'on est soi. Or, chercher à plaire à son conjoint est du domaine de capable de faire, et pas forcément de l'être. Si vous êtes vous-même, et quand vous êtes vous-même, si vous percevez que votre conjoint ne vous supporte pas, ne vous aime pas, vous avez des questions à vous poser. Qu'est-ce qu'il aime en fait ? Est-ce qu'il aime l'image de vous, le fantasme qu'il s'est créé sur vous, la star que vous êtes, la célébrité, la personne oratrice, intellectuelle, avec une super rémunération, un super poste, ou est-ce que c'est vous qu'il aime ? Ça veut dire que si vous perdiez votre poste, que vous n'aviez plus de rémunération, que vous n'étiez plus une star, que vous n'étiez plus admiré et adulé, que vous ne signiez plus d'autographe, est-ce qu'il vous aimerait quand même ? Vous voyez ? Parce que cet inconfort d'être aimé pour la surface de soi, peut être une cause énorme de dépression nerveuse et de mésestime, carence d'estime de soi. Il y a des décisions à prendre si vous prenez conscience de ça, ne serait-ce que d'aller en parler à votre conjoint, lui dire « j'ai l'impression que tu m'aimes pour la surface de moi. Est-ce que je me trompe ?» Mais il y a aussi des décisions à prendre pour vous-même, pour vous dire « je veux commencer à faire en sorte que mon moi profond émerge. » Et en ce sens, eh bien, peut-être aussi, là aussi, partager avec votre conjoint pour lui dire je voudrais que mon moi personnel émerge et baisser la place, l'envergure de la forme, de l'apparence de moi qui donne à nourrir une forme d'admiration. Quelque part, je vous invite de manière générale à prendre le risque d'être aimé pour vous-même. Ou bien, d'être non aimé parce que vous êtes vous-même. Sortir de ce mensonge bénéfice qui fait que vous êtes en permanence en représentation et que vous vous fatiguez, vous vous épuisez à tenter de montrer quelque chose de vous. C'est valable aussi dans la parentalité, on veut montrer qu'on est un bon père ou une bonne mère, qu'on est sympa avec ses enfants, qu'on s'amuse avec eux, puis quand le conjoint est parti, on a vraiment ras-le-bol, quoi. On n'est plus les mêmes. Prenez le temps, prenez le risque d'être aimé pour vous-même. Parce que vous savez, au fond de vous, que quand vous vous posez la question « est-ce que mon conjoint m'aime ?», que si vous êtes conscient qu'il vous aime pour la surface de vous, vous répondrez non. J'aimerais que, quand vous vous posez la question de savoir si votre conjoint vous aime, pour qui vous êtes vraiment, vous soyez en mesure de répondre oui, parce qu'il vous aime pour vous, pas pour la surface de vous, parce que vous êtes vous, avec vos défauts, avec vos limites, avec vos petitesses, vos faiblesses, etc. Mais c'est vous qui l'aime. À bientôt. Yes, vous avez écouté cette émission jusqu'au bout, alors merci et bravo. Et puis évidemment, partagez cette émission si elle vous a fait du bien. Peut-être même que ça peut être l'occasion d'échanger en couple à partir de cette émission pour continuer à être plus vous-même, aimer davantage pour qui vous êtes et être heureux en couple.